L'Europe
et vous
sur Radio B.
Notre défi,
vous faire comprendre.
Cette émission est proposée en partenariat avec la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain ou pour les intimes MDEE 01. Dom, on parle de quoi aujourd'hui ?
De l'environnement. On va s'apercevoir que l'Union européenne fait beaucoup de choses et que ce n'est pas pour autant qu'à notre niveau, on s'en rend compte. À qui la faute ? On essaiera de répondre en fin de chronique.
C'est pas nouveau ça. Et on va écouter qui ?
On va écouter un spécialiste de l'environnement au niveau régional qui nous apprend beaucoup de choses. C'est Monsieur Marc Châtelain. Ensuite, on écoutera deux personnes de Bourg-en-Bresse, Colette et Eric, très impliquées dans le bénévolat. Elles nous apprennent aussi beaucoup sur leurs actions. Les espaces d'intervention ne sont pas du tout à la même échelle. Ils sont pourtant complémentaires et il faudrait que le lien entre les deux soit bien plus fort.
Radio B, 90 FM.
Écoutons Marc Châtelain.
Bonjour Marc Châtelain, pour nos auditeurs, pouvez-vous préciser votre profession ?
Alors, je travaille à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à Lyon, et je suis chargé de suivre notamment les projets d'aménagement qu'il y a sur le territoire régional, et avec les aménageurs, de réfléchir à des mesures de compensation, par exemple. Alors, on finance aussi des réserves naturelles, etc. On a plusieurs volets d'action, toujours sur le thème de la protection de la biodiversité.
Justement, en parlant de biodiversité, est-ce que, selon vous, l'Union européenne est vraiment partie prenante dans l'environnement ? Est-ce que vous le constatez ?
Alors, on a pas mal de programmes dans lesquels l'Union européenne intervient, en tant que financeur, notamment. Hein. Alors, sur plusieurs lignes de programmes et dans plusieurs types de programmes. Il y a notamment ce qu'on appelle les programmes LIFE, qui sont des programmes qui sont destinés à financer des actions expérimentales, notamment dans le domaine de la biodiversité. Et on en a déjà mené pas mal dans la région, hein, y compris tout près de chez nous, dans le département de l'Ain. Alors, il y a également d'autres lignes budgétaires, financières, d'actions. Et également, l'Europe, elle intervient, alors là, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi très important, en termes de réglementation, puisqu'elle fait converger la réglementation des différents États européens sur des objectifs communs, notamment dans le domaine de la protection de la nature.
Ça fonctionne comment tout ça ? Il faut un projet ou l'Union européenne intervient directement de son propre chef ?
Alors quand on parle de réglementation, ça c'est l'Union européenne qui est aux manettes en quelque sorte, hein, pas toute seule, hein, puisqu'elle le fait avec l'accord des États qui la compose, hein. Mais du coup, il y a des directives ou des règlements, comme on dit, des lois de niveau européen, qui vont s'imprimer sur le droit français et nous orienter vers des objectifs, protection de certaines zones naturelles ou protection de certaines espèces. Par contre, en termes de projets finançables, il y a des fonds qui sont alloués par l'Europe et c'est aux proposants, quelque part, de monter un projet pour faire valoir l'intérêt et obtenir des sous.
Donc, si je comprends bien, s'il n'y a pas de projet, l'Europe ne va pas fournir de fonds.
C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée quand même constituée pour demander de l'aide européenne. Donc, ça demande un petit peu d'investissement en temps pour constituer un dossier, mais c'est tout à fait possible.
Donc, l'initiative en revient au pays. L'initiative de fournir des fonds ne revient pas à l'Union européenne. Il faut présenter un projet, il faut qu'il soit viable, bien constitué. Et à partir de là, pour tant d'euros fournis par le pays, il y a tant d'euros fournis par l'Union européenne. Je comprends bien ?
C'est ça, tout à fait. En général, il y a des contreparties. C'est-à-dire que l'Union européenne va, par exemple, financer le projet à 50% de son montant. Et l'État ou d'autres partenaires, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, des financements privés qui viennent aussi compléter. Des collectivités, tout est possible. Hein. Pour l'autre moitié, en général, c'est des financements plus locaux. Alors, je dis moitié-moitié, des fois, c'est la part européenne est plus importante. Ça peut arriver.
Il y a certainement des belles réalisations dans ce domaine de l'environnement dans la région. Ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse plus particulièrement les auditeurs de Radio B, c'est les réalisations marquantes dans l'Ain. Vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Parmi ces projets qui sont financés, donc je vous ai cité ce qu'on appelle les programmes LIFE, hein, qui sont des programmes avec des fonds qui sont dédiés à la protection de la nature. Donc on en a eu plusieurs dans l'Ain. Il y en a un qui est terminé maintenant, mais qui a eu beaucoup d'effets positifs, c'est sur la Basse-Vallée de l'Ain, qui nous a aidé à restaurer certains abords de la rivière, qui étaient très dégradés. Alors ce projet, qui est relativement ancien, qui date de plus de 10 ans, il a des suites très positives, parce qu'il a servi à expérimenter des techniques. Et ces techniques, même si le projet est fini, on continue à les mettre en œuvre, avec d'autres sources de financement. Il y a également eu un projet tout à fait intéressant dans le même titre de l'enveloppe LIFE, portée par le ministère de la Défense sur ses camps militaires. Hein.
On parle de la Valbonne.
Alors notamment la Valbonne, hein, et ça c'était vraiment passionnant parce qu'il se trouve que les militaires qui travaillent là se sont complètement impliqués dans ce projet. Alors, c'est un camp militaire qui a beaucoup d'intérêt au niveau naturel, hein, parce qu'on a beaucoup de plantes ou d'oiseaux protégés qui n'ont pas trop peur des manœuvres militaires, mais qui sont très contentes d'être là parce qu'il n'y a pas de champ de maïs irrigué à cet endroit-là. Voilà. Et actuellement on est en train de réfléchir à d'autres programmes. Notamment, il y en a un qui est en réflexion, qui concerne les forêts du Haut-Jura, qui sont un petit peu menacées pour des tas de raisons, le réchauffement climatique, une fréquentation sportive qui est des fois un petit peu anarchique. Et on réfléchit en ce moment avec des forestiers naturalistes au montage d'un nouveau projet dans ce secteur.
On parle de montants attribués, on a juste donné quelques données relatives en pourcentage. Vous avez quelques chiffres pour donner une idée aux auditeurs de ce que ça coûte tout ça, ou de ce que ça peut coûter. Quel est l'apport de l'Europe là-dedans?
Alors le programme LIFE, par exemple, la partie consacrée à la biodiversité, à la protection de la nature, c'est un programme qui s'étale entre 2014 et 2020. Il y a un peu plus de 2 milliards d'euros, si je ne me trompe pas, qui sont alloués, ce qui est quand même important, hein, au niveau de tous les pays d'Europe, hein, bien entendu. Hein. Donc c'est, au niveau français, c'est évidemment inférieur, on est bien d'accord. Et pour détailler un projet en particulier, le projet de la base Valaisanne dont je vous ai parlé, qui remonte aux années 2002-2006, il y avait eu pas loin de 2 millions d'euros versés, la part européenne représentant un petit peu moins de la moitié. Donc dans les 900 000 euros, quoi, à peu près.
Ça fait une belle participation quand même, ouais. Autour de 50%. J'ai cru comprendre tout à l'heure que c'était une participation d'un montant, d'un pourcentage récurrent. C'est quand même assez intéressant. Mmh. Dernière question, et c'est assez d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez des grèves du vendredi de la part des lycéens? Ça vous paraît une bonne initiative?
Alors, je pense qu'il est très important que la société se mobilise. Hein. Alors, sous toutes sortes de formes, hein, bon, comme étant fonctionnaire, je suis astreint à un certain devoir de réserve, mais le fait que les jeunes se mobilisent sur des sujets comme ça, ça me paraît tout à fait positif. Hein. Alors, bon, ça prend la forme de grève, des cours, ça peut être un peu fâcheux peut-être pour leur cursus, moins à court terme, mais la démarche, à mon avis, peut être que positive, surtout quand on voit, comme ça se passe actuellement, quelle est, en l'occurrence, à l'échelle européenne, quoi. On voit ces mouvements de jeunes se développer un petit peu dans tous les pays d'Europe, y compris hors de l'Union européenne, hein, puisqu'apparemment en Suisse, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements actuellement sur ce thème-là.
Si ces mouvements prennent effet à l'échelle européenne, c'est que vraiment la jeunesse en a pris conscience. Notre jeunesse et celle de l'Europe en a pris conscience. Et on espère que ça ne s'arrêtera pas là, parce que les aînés, parfois, ont bien besoin de l'intervention de jeunes lycéens au tournant de leur majorité. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, et à très bientôt, j'espère.
Merci.
Ça en fait des sous et des actions. Dommage que ça manque d'une large communication.
Tu as tout à fait raison, et on va s'en rendre compte tout de suite avec Colette et Eric.
On écoute.
Alors, je suis retraitée depuis peu, mais je me suis investie dans le bénévolat auprès d'une association d'un centre social. Et j'ai des missions qui sont très enrichissantes.
Ben moi, je suis retraitée depuis déjà 2 ans. Je travaillais dans le tourisme, j'étais directeur de village de vacances. Aujourd'hui, je fais du bénévolat. Particulièrement au centre social des Vennes, où je suis écrivain public. Je suis par ailleurs conseiller citoyen aussi. Et puis, je suis trésorier aussi d'associations. Et encore quelques petites bricoles par-ci, par-là.
Bien occupé, donc. J'ai entendu dire que le conseil citoyen auquel vous appartenez avait organisé une opération quartier propre juste avant Noël. Ça a donné quoi ?
Alors effectivement, au sein du Conseil citoyen s'est constitué un groupe de travail qui avait pour thème l'environnement. Ce groupe de travail s'est saisi d'une question qui tenait à cœur à pas mal de participants, c'est la propreté du quartier. Et il a été décidé donc de monter une opération dite quartier propre, effectivement, qui s'est déroulée le samedi 15 décembre, si ma mémoire est bonne, et qui avait pour objet de nettoyer, entre guillemets, les rues du quartier qui avaient été un petit peu souillé par des papiers, des bouteilles et autres détritus abandonnés. Donc l'opération était de ramasser ces bouteilles, papier, canettes et même mégots. Donc nous sommes retrouvés un samedi matin, nous étions une douzaine de personnes, je pense. Pour cette première opération, ça nous a semblé être un bon succès, une opération réussie, surtout de sensibilisation auprès de tous, élus, habitants, enfants, collégiens, élèves des écoles, en souhaitant que cette opération puisse reproduire dans les mois à venir.
Et vous, Colette, vous faites quoi dans ce domaine ?
Dans notre quartier, on vit un problème d'environnement et on se rend compte que le terrain, les aires publiques sont pleines de détritus et on a dû se fâcher et être obligé de faire intervenir la police municipale pour que les jeunes puissent de l'extérieur venir récupérer et mettre en ordre le lotissement. Et je pense que c'est un manque de civisme. Et à l'école, autrefois, on apprenait beaucoup l'éducation civique où on mettait chacun devant ses responsabilités. Et je pense que dans les écoles, on devrait remettre en place peut-être l'éducation civique pour que les jeunes aient cette approche-là.
Là, on est au niveau très local. Vous avez une idée de ce que peut faire l'Union européenne en matière d'environnement à une échelle beaucoup plus grande ?
Alors là, absolument pas. Personnellement, j'ai pas d'informations là-dessus. Non.
Colette ?
Je n'en ai pas connaissance non plus. Je peux pas imaginer à cette échelle-là. Je ne vois pas.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous soyez informés ?
Par tout ce qui est réseaux sociaux, par la télévision ou d'autres, ou avoir même en main des circulaires, ou je ne sais pas comment, à cette échelle-là, on peut connaître les méthodes.
Éric ?
Je ne sais pas, les décideurs européens pourraient peut-être mettre en place une journée mondiale, si elle n'existe pas. Si elle existe, j'en ai pas connaissance. Une journée mondiale sur l'environnement. Je sais pas, des actions comme ça qui puissent avoir un retentissement médiatique important.
Je vous vois réagir, Colette.
Oui, organiser comme on fait une journée sans tabac, une journée sans voiture, pourquoi pas une journée consacrée justement à l'environnement et au respect de l'environnement.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour qu'au niveau local, ça se passe d'une manière beaucoup plus liée aux actions de l'Union européenne ?
On s'est aperçu lors de l'organisation de cette journée du 15 décembre qu'il fallait absolument trouver des relais auprès des classes, auprès des jeunes, auprès de tout ça. À ce moment-là, l'Europe pourrait téléguider ces actions-là, les piloter et les diffuser auprès de tous les partenaires qui pourraient se lancer dans cette opération.
On pourrait faire un lien entre l'école, le conseil citoyen, les institutions, mais au niveau des quartiers, au niveau directement des habitants.
Chaque famille, faire une réunion de quartier et peut-être sensibiliser les gens sur ce sujet-là et aux parents déjà aussi de faire leur propre rôle en expliquant la situation pour avoir nos quartiers propres et puis après les plages, etc., à plus grande échelle. C'est compliqué, mais...
Oui, c'est compliqué. L'Union européenne, c'est quelque chose de compliqué pour la faire toucher aux communs des mortels, aux riverains, aux habitants directement pour leur faire toucher du doigt ce qu'elle fait véritablement en matière d'environnement. On va en rester là pour ce soir et à bientôt. Merci de votre participation.
C'est avec plaisir que j'ai contribué à cette enquête.
Merci Dominique.
Ça mérite aussi d'être connu.
Je suis bien de ton avis, que ce soit au niveau européen ou local.
On aurait pu aussi bien parler d'autres sujets environnementaux. La pollution au carbone, les pesticides, le nucléaire, et j'en passe. Mais pourquoi on n'est pas mieux informé ?
Eh bien, j'ai bien du mal à te répondre. Entre l'Union européenne et toi ou moi, il y a beaucoup de relais.
Où est-ce que la chaîne est rompue ?
Eh bien, véritablement, je n'en sais rien.
Je demande pas être une experte, j'aimerais juste en savoir un peu plus sans devoir aller fouiner pendant des heures. Un minimum quoi.
Ben oui gamine, comme Colette et Eric, des personnes très impliquées qui aimeraient sentir une présence plus forte de l'Europe.
Ça n'existe pas ?
Si, mais comment savoir que ça existe ? C'est bien là tout le problème.
Je compte sur toi pour aider à le résoudre. C'est terminé pour aujourd'hui, c'était Kumba.
Et Dom, prochaine chronique, l'Europe et le domaine social.
Ah, c'est d'actualité ça.
Voilà, c'était la dernière de Kumba. Un grand merci à elle pour m'avoir supporté depuis septembre dernier, pardon, et réciproquement.